France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Oui, du mobilier sur mesure, 100% français, ça existe, hein, Elisabeth, et c'est la solution du jour. L'entreprise s'appelle Designer Particulier.
Oui, vous avez certainement une idée de meubles qui pourraient aller dans votre maison.
J'en ai même plusieurs.
Hein, vous en avez plusieurs. Alors, très souvent, on s'accommode de ce qu'on trouve dans les magasins spécialisés. Mais là, avec Designer Particulier, vous avez la possibilité de participer à votre projet, à votre rêve de meubles. C'est très simple, vous allez sur le site internet et vous décidez en quelques lignes le projet qui vous fait rêver. Et la particularité, c'est que vous bénéficiez du talent et du savoir-faire de créateurs installés partout en France, dans nos régions, pour réaliser le meilleur de vos rêves. Bonjour Christophe Gernigon.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Designer Particulier. Comment ça vous est venu cette idée ?
En fait, avec mon associé Benoît Loup, en fait, on a 35 ans à nous deux d'expérience dans le milieu de l'ameublement. Et en boutique, on se rendait compte que beaucoup de gens avaient envie de choses sur mesure
ou j'aime bien, mais je préférerais plus comme ça, plus
voilà, des contraintes. Alors, ou j'ai pas cédé dans l'espace, ça rentre pas, ou j'ai pas la couleur qu'il faut, ou j'ai des idées aussi parce qu'il y a des gens qui venaient avec des choses insolites et on laisse en fait perdre ses idées, etc. Donc on s'est dit, mince, si on pouvait accompagner tous ces gens en les emmenant avec des designers pour pouvoir voir la faisabilité de leurs produits, et après, pouvoir le faire fabriquer en France. Donc on a fait un petit peu le tour de la France, on a rencontré plein de
Vous en avez sélectionné pas mal, que l'on voit sur le site internet, avec une jolie photo, voilà. Vous les présentez, on a l'impression d'entrer dans leur univers.
On a des liens très forts, parce que c'est vrai qu'on va les voir.
C'est important l'histoire.
Voilà, parce qu'on va les voir, parce qu'on les chouchoute aussi, parce que c'est des gens qui ont un savoir-faire et qui travaillent très bien. Donc on a été voir des fabricants, mais aussi des fabricants, pour pouvoir, parce qu'en fait l'idée c'est aussi de cette idée-là, quand elle est intéressante, de pouvoir la dupliquer et de pouvoir la vendre sur notre site ou par des distributeurs. Et en fait, la personne qui a créé le produit, le particulier, va toucher des royalties à chaque fois.
Alors, donnez-moi un exemple.
Alors, je vais vous donner un exemple d'une jeune femme qui s'appelle Sophie, qui nous a appelé et qui nous a dit, voilà, je cherche à faire fabriquer un bureau et une commode pour la chambre de mon fils. La commode est dans une alcôve sous une fenêtre. Donc, difficile pour la dimension, la taille. Et elle voulait coordonner les deux, en fait, que le bureau soit coordonné à la commode. Impossible, je ne trouve pas dans le commerce le coordonné,
forcément,
ni quoi que ce soit. On l'a mis en lien avec un designer, on a travaillé tous ensemble en conférence call, etc. On a eu des photos de chez elle, etc. On a conçu le modèle, on l'a fait fabriquer par un petit artisan, elle l'a reçu chez elle, on lui a demandé, oh, le bureau, on le trouve vraiment intéressant, est-ce qu'on ne peut pas le dupliquer? Donc, on l'a dupliqué, il est en vente aujourd'hui sur notre site.
C'est formidable.
On essaie de trouver des distributeurs, on en a quelques-uns, voilà, pour pouvoir vendre nos produits. Et cette cliente qui s'appelle Sophie, qui a travaillé avec Nicolas, notre designer, reçoit des royalties
à chaque
fois qu'on vend un meuble. Parce que, c'est jusqu'à 5% du prix de vente.
Qui est à l'origine.
Voilà. Et alors, dans l'histoire, c'est que son fils s'appelle Antoine, donc cette collection s'appelle Antoine, le nom de son fils.
C'est joli. C'est une belle histoire du début à la fin. Vous avez sélectionné des designers français pour tout ça. Donc, il y a un savoir-faire. Est-ce que c'est beaucoup plus cher que ce que l'on peut trouver dans un magasin classique
Alors, pour le premier, on est un peu plus cher. Mais après, quand on fait en série, on arrive à trouver des choses.
Mais si j'ai une idée, par exemple, si je rêve d'une commode à chaussures, par exemple, pour créer ça selon ma demande, là, ce sera beaucoup plus cher, j'imagine. Est-ce qu'il y a un ordre de prix à nous donner ?
Pas beaucoup, parce qu'après, on travaille avec des petits artisans qui réfléchissent au prix, je pense à une dame qui se trouve dans le, je dis bien une dame parce que c'est une petite société de menuiserie qui se trouve près de Nancy. Ben, elle a déjà son bois déjà acquis, elle a tout ça, donc elle le chêne, c'est du vrai chêne qu'elle a depuis 10 ans dans ses entrepôts, donc on sait qu'il va tenir et qu'il va être bien. Et elle me dit, j'ai du stock, donc j'essaye je pars avec vous dans
chacun
ce projet-là.
Frédéric, notre coach.
J'adore, je suis juste en train de voir.
Ça y est, il imagine déjà tous les meubles qui manquent.
Ou tous les meubles qui sont pas bien adapté parce que le coin marchait pas bien. Puis bon, il a fallu quand même faire un choix sur un meuble avec des dimensions approximatives. Donc non, j'adore. Justement, comment vous estimez la valeur dans ce que vous livrez qui est liée au fait que c'est extrêmement spécifique et ou la valeur qui est liée au fait que c'est original? Alors, c'est, ce que je veux dire, c'est que spécifique, ça va être vraiment particulier. C'est-à-dire que, je ne sais pas, chez moi, j'ai un coin qui ne fait pas 90 degrés, qui fait 78 degrés. Et il me faut un meuble qui rentre dans cet endroit-là. Mmh. Et donc ça, c'est très spécifique. Et la valeur d'un meuble qui serait plus
standard,
original, standardisé, entre le ultra standard très carré qu'on peut voir chez des très très grands distributeurs de meubles, dont je ne citerai pas les noms, et quelque chose
totalement spécifique. Comment on évalue ce qui coûte le plus cher ?
Oui, c'est-à-dire dans ce qu'on achète chez vous, on vient chercher un meuble spécifique ou on vient chercher un meuble original ?
Christophe.
Oui, alors on va réfléchir un petit peu sur la faisabilité déjà, et aussi de réfléchir si les contraintes par rapport aux artisans, vu qu'on a plein d'artisans, on essaye de voir aussi avec ceux avec qui ça match et qui vont pouvoir rentrer dans votre fourchette de prix, parce que vous allez aussi venir avec nous en disant, moi mon bureau, ben, je ne veux pas mettre au-dessus de 2000 euros par exemple, ou au-dessus de 500 euros, donc on va essayer de se répartir.
Donc vous allez vous adapter à la demande du client et là vous allez adapter vos matières.
Sur les matières, c'est vrai que...
Et ça s'appelle designer particulier. C'est la solution aujourd'hui pour trouver chaussures à votre pied. Merci d'avoir été avec
nous beaucoup,
sur Europe 1. Il est 12h58.
Europe 1.
Et on va rester ensemble. On va voyager dans un instant. Ne bougez pas.
Europe 1. 12h14. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, c'est vous qui faites l'actualité. Vos projets sont nos stars et nous montrons chaque jour que faire changer la société n'est pas impossible. Vous serez nombreux ce mois-ci à partir en vacances, que ce soit à côté de chez vous quelques jours ou dans la famille, voire à l'autre bout de la terre pour décompresser. Et dans vos bagages, on va glisser quelques idées qui vont peut-être vous inspirer. Bonjour Bastien Payou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de My Trip Plan. Alors, on dit My Trip Plan ou My Trip Plan ? Ça s'écrit en un seul mot ?
Souvent, on le francise, donc
d'accord,
on dit My
Trip
Plan.
C'est MYTRIPLAN, pour ceux qui nous écoutent. Vous avez eu l'idée de concevoir des séjours sur mesure où ce sont les habitants de la ville ou du village qui vont finalement se transformer en agent de voyage personnel. Je crois que c'est au Mexique, hein, tout d'abord, que vous êtes parti et que vous avez eu l'idée parce que c'est ce qui vous est arrivé. Les habitants vous ont aidé. On est en 2013.
Exactement. En fait, je suis parti au Mexique et en arrivant dans le pays, les Mexicains ont tenu à me faire visiter des lieux et des endroits qui ne sont pas forcément touristiques et qui correspondaient beaucoup plus à mes attentes de voyageur et à ce que je recherchais comme type d'activité. Et je me suis retrouvé du coup dans des lieux qui n'étaient pas du tout touristiques et qui me plaisaient beaucoup plus que ce que j'aurais pu trouver par ailleurs.
Et même chose en 2014, là cette fois c'est en Inde.
Exactement, ça s'est reproduit en Inde, donc en fait je me suis dit que c'était pas quelque chose qui était localisé au Mexique, mais que finalement, quel que soit le pays, les habitants aiment leur pays et ont envie de le faire partager à d'autres personnes qui viennent le visiter.
Du coup, quand ils viennent vous voir, parce qu'ils sont venus vous voir, vous leur avez fait partager de la même manière, c'est-à-dire que vous avez servi de guide et vous vous êtes dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire.
Tout à fait. En fait, en revenant en France, je suis venu vivre à Paris. Et les Mexicains et les Indiens que j'avais pu rencontrer sont venus en visite en France. Et immédiatement, ils m'ont demandé qu'est-ce que je pouvais leur conseiller comme type d'activité, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire ce que tout le monde fait.
Et donc ?
Et donc, on en arrive à la création de My Trip Plan, qui met en relation, qui permet à des voyageurs de contacter des habitants afin de les aider à organiser leur programme de voyage sur mesure.
Alors, on entend une petite pointe d'accent dans votre voix qui est du côté de Toulouse.
Exactement.
Vous rentrez à Toulouse, justement, vous vous lancez pour proposer cette nouvelle manière de voyager. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous formez d'abord au code en ligne, c'est ça ?
Voilà. Forcément, pour pouvoir mettre en relation des personnes à distance, il y avait besoin d'un site internet. Donc, en fait, j'ai commencé par me former au code pour créer le premier site My Trip Plan et commencer mon activité.
Alors, comment ça marche ? Si je me connecte, je donne ma destination, mes goûts, mes envies, et vous allez trouver la personne qui va pouvoir m'aider ?
Voilà, pour l'instant, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que nous, on essaye de mieux comprendre quelles sont vos attentes en tant que voyageur. Et en fonction, on vous trouve un habitant qui connaît bien sa ville et sa région et qui partage un peu les mêmes centres d'intérêt que vous pour vous aider à trouver les bonnes activités à faire durant votre voyage.
Vous avez un exemple à me donner, par exemple, si je veux partir en Italie, du côté de Rome, vous connaissez quelqu'un, vous allez pouvoir me dire si j'aime bien manger et faire un peu de tourisme, mais que je ne veux pas voir les sites habituels.
Alors, on va dans un premier temps regarder si on a quelqu'un sur place qui partage les mêmes centres d'intérêt que vous, qui va pouvoir vous conseiller. Sinon, on va se mettre à rechercher via différentes façons un habitant qui pourra vous conseiller.
Frédéric, notre coach.
Alors, l'idée est excellente. Je ne peux pas m'empêcher de penser, cela dit, qu'il y a quand même pas mal de concurrents déjà sur un créneau similaire. Alors, arrêtez-moi si je me trompe. Hein, je vais vous citer quelques exemples, mais vous allez me dire si c'est les mêmes. Mais sur Airbnb, il y a les expériences. Ça m'a l'air de ressembler un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir un local pour nous faire visiter. Je crois qu'il y a Get Your Guide, qui est une société allemande qui a levé 500 millions il n'y a pas longtemps. Quand même une énorme somme qui est également un petit peu sur ce créneau-là. Ça me fait penser un petit peu à Evaneos aussi, qui est une très très belle société française qui s'étend à l'étranger. Alors là, c'est un petit peu différent parce que je pense que c'est avec des professionnels qu'on se fait accompagner sur place. Bref, comment vous vous situez dans ce paysage-là qui est très très dynamique?
Alors justement, on en parlait avant l'émission et on considère que Airbnb Experience comme Get Your Guide, c'est complémentaire à ce qu'on propose. C'est-à-dire que nous, l'habitant va aider à organiser l'ensemble du programme de voyage, mais par contre, il n'est pas forcément sur place avec le voyageur. Nos habitants sont des personnes qui travaillent, donc ils ne peuvent pas forcément accompagner les voyageurs. Donc,
ce ne sont pas des guides, hein, c'est eux qui vont concevoir le voyage à notre place, finalement. On va leur donner nos exigences, alors, et eux vont faire au mieux en fonction de
pas
nos goûts.
À la place, c'est plus ensemble que se constitue l'itinéraire de voyage. Et typiquement, des activités de Airbnb Experience ou de Get Your Guide peuvent se retrouver dans nos guides. Ça arrive régulièrement, étant donné que les habitants peuvent faire à la fois sur Airbnb Experience et sur MyTripLine. Ça peut être les mêmes personnes, ils peuvent proposer de faire l'activité avec eux.
Elisabeth,
moi, je tiens à vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à vous trouver sur une appli, sur l'appli ou sur Internet. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, comment ça s'écrit ou... Parce que j'ai tout essayé, je n'ai pas réussi à télécharger l'appli.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'application.
Voilà,
c'est
donc
pour ça.
Au moins, ça c'est clair. Et il y a un site Internet.
Pour l'instant, il y a un site Internet qui est accessible sur le téléphone de manière...
Et c'est quoi comme site?
C'est mytripline.travel.
Ah, bah voilà.
C'est le point travel.
Très bien,
voilà,
manqué,
Elisabeth.
Eh bien, très bien.
C'est important de le préciser parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont peut-être essayer de venir vers vous. Pour l'instant, vous dites que vous avez 130 locaux inscrits dans 35 pays, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
L'objectif, c'est quoi à terme?
Alors, là, on est sur une phase où en fait, on est en train de revoir l'intégralité du site Internet.
Oui, vous êtes en train de travailler une nouvelle version.
Voilà, pour avoir... être en mesure d'accueillir beaucoup plus de demandes de voyageurs et d'accroître le nombre d'habitants locaux. Donc, on est sur une phase de développement.
Oui, parce que là, même en cherchant mytripline.travel, c'est compliqué de vous trouver.
Allez, je suis sûre qu'on va s'arrêter quelques minutes et qu'on va trouver d'ici tout à l'heure. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Pas besoin d'aller à l'autre bout de la Terre pour s'évader. Le voyage est parfois juste au coin de la rue. Si vous en doutez, Escapade va vous convaincre. À tout de suite. Cet après-midi dans La France Bouge, on parle des innovations dans le domaine du tourisme numérique. Et vous, utilisez-vous des applications, des sites pour préparer vos voyages? Dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921 Raphaël.
Et pour se dépayser, nous ne sommes pas obligés de partir à l'autre bout du monde. Le voyage peut être de courte distance. Bonjour Lambert Boulet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous avez beaucoup voyagé, vous, et vous avez travaillé, je crois, aussi dans la mobilité. Ça va intéresser Frédéric Mazella. Jusqu'au jour où vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie de créer votre propre entreprise autour de la culture et du tourisme. C'est ce que vous avez fait.
Tout à fait. En fait, au cours de mes différents voyages, à chaque fois, que ce soit vraiment en France, en Europe ou partout dans le monde, j'étais confronté toujours à la même problématique. C'est-à-dire, une fois que j'ai réservé l'avion, le train, l'hôtel, qu'est-ce que je fais sur place? Et donc là, un peu comme tout le monde, je commence à regarder des sites, des blogs, même les guides papier en fait, qu'on a tous eu dans les mains. En fait, ça prend beaucoup de temps. et à la fin, on n'est pas sûr de ne pas être passé à côté de quelque chose. Donc voilà, c'est l'idée vraiment à la base qui m'a poussé à créer Escapade.
Donc depuis mai 2019, vous avez conçu une appli test hein, pour le coup, et vous êtes allé la tester dans Paris, vous l'avez mise dans les mains des touristes, tout
c'est
simplement.
C'est ça, on est allé à la rencontre des touristes, alors des Français, des étrangers, de tout âge, et on leur a donné un téléphone avec l'application pour voir vraiment ce qu'ils en pensaient. Et les réponses étaient assez... ça nous a vraiment plu, les gens trouvaient ça vraiment top, et ça nous a... conforté dans l'idée qu'il y a vraiment une demande.
Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il y a dans cette appli ? Qu'est-ce qu'on trouve ? On est dans un guide, mais en 360 degrés, puisqu'on a des photos, on a de l'audio, on a tout un tas de choses qu'on n'a pas dans le papier.
C'est ça. Concrètement, en fait, un guide, c'est basé vraiment sur une carte du lieu. Alors, ça peut être la carte d'une ville, du quartier, ou même un plan très détaillé quand c'est dans un musée. Et donc, ça permet de se repérer. Il y a toutes les étapes, les points d'intérêt que vous allez pouvoir voir au cours de votre parcours, en fait.
Vous avez un exemple à nous donner ?
Si on peut prendre dans Paris, on a pas mal de guides. Vous pouvez prendre par quartier, je crois dans le Marais, on a deux ou trois, qui vous font passer par les petites ruelles des Marais qu'on connaît pas forcément, même personnellement en tant que Parisien. Il y en a plein que je connais pas et que j'ai découvert grâce à ça. Quand on arrive devant un lieu qui est positionné sur la carte, dans ce cas-là, on a plein d'informations, du texte, des photos, des vidéos, de l'audio. C'est vraiment une expérience un peu plus immersive que juste...
une extension finalement de ce qu'on voit sur place.
C'est ça, tout à fait.
Frédéric Mazella.
C'est très tentant. Est-ce que vous êtes sur une innovation ? Je n'ai pas entendu parler de choses comme ça et pourtant ça paraît très attractif. Je ne sais pas, est-ce que le Routard, est-ce que Lonely Planet, est-ce que des gens comme ça ont déjà développé quelque chose qui ressemble de près ou de loin ?
Alors dans les éditeurs classiques, Lonely Planet a racheté une application. Alors ils sont plus sur du carnet de voyage, un peu plus on dirait du blog 2.0. Par contre, les autres éditeurs, on travaille plus avec eux. Donc là, on est en discussion avec les éditeurs de guides papier qui, eux, voient vraiment l'intérêt de ce type d'application. Et vous verrez qu'on travaille en partenariat. Mais effectivement, c'est un problème auquel on se frotte souvent. C'est-à-dire que tout le monde a à peu près l'idée de se dire mais il y a forcément une application avec des guides vraiment digitaux. Mais en fait, quand on regarde, soit c'est des expériences très locales, donc une ville qui va faire sa propre application, soit en fait c'est plus des sites internet. En application, il n'y a pas trop.
Elisabeth, vous avez testé ?
Oui, là, celle-ci, j'ai pu la tester. Escapade. Alors, je me suis inscrite. On a le choix entre le français ou l'anglais pour pouvoir établir notre escapade. Et là, vous pouvez parcourir toutes les escapades qui existent. L'appli vous géolocalise. Vous précisez tout de même l'endroit où vous vous trouvez. Et ensuite, elle vous propose des tas d'endroits. Là, par exemple, on n'est pas très loin de nos studios. Donc, on m'a proposé le quartier, notamment le quartier du Trocadéro. Donc, j'ai cliqué dessus. Et là, j'obtiens un parcours sur une distance de 5 km. Donc, ce sont toujours des distances réalisables à pied, hein, la plupart du temps.
En fait, vous avez plusieurs types de guides. Vous avez effectivement ceux qui sont le quartier.
Moi, j'ai fait celui du quartier.
Et ça, après, vous avez jusqu'au road trip où là, ça va être plus effectivement en voiture, en transport.
Et là, j'ai eu le choix parmi 10 activités. C'est-à-dire, on n'imagine pas le pont de l'Alma, le palais de Tokyo, le square du palais Galliera, le square Thomas Jefferson, place du Trocadéro, des tas d'activités. Et ce même parcours est signalisé sur une carte. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, notamment quand vous vous trouvez dans une ville que vous ne connaissez pas. Bon, là, c'était pour tester, mais si demain vous partez, par exemple, à Marseille, eh ben, vous pouvez avoir le même type de parcours sur une courte
distance.
Tout
à fait, en fait. Vous pouvez soit vraiment planifier vraiment en avance, soit quand vous arrivez dans une ville, vous ouvrez l'application et vous trouvez un guide qui vous permet, alors soit en une journée, deux jours, après il y a...
Après c'est au choix. À nous d'entrer les caractéristiques.
Et aussi en fonction du thème que vous voulez, parce que si vous connaissez déjà la ville, vous n'avez pas forcément de refaire les principaux essentiels.
Donc pour faire un parcours gastronomique par exemple.
Par exemple, s'il y a un guide dessus, vous pouvez.
Vous prévoyez de vous développer, je crois que vous allez faire une nouvelle levée de fonds.
On va faire une première levée de fonds, effectivement au premier trimestre de l'année prochaine. Pour développer principalement, parce que nos guides en fait sont pas créés uniquement par nous, ils sont créés surtout par des professionnels du tourisme et de la culture. C'est-à-dire que c'est pas, je vais pas pouvoir mettre moi-même mes dernières vacances. Par contre, on va avoir des blogueurs de voyage qui eux ont des certaines communautés qui tiennent des blogs assez complets, qui vont venir créer en fait directement les guides.
Et en janvier pour le CES, vous allez sortir une nouvelle appli.
C'est ça, une nouvelle version de l'application beaucoup plus ergonomique et plus centrée vraiment sur le contenu pour découvrir encore plus de choses. Et également, on va sortir potentiellement un nouveau partenariat avec un éditeur de guide de voyage dessus.
Oui, et puis vous travaillez sur la 3D.
Également, on aime bien travailler avec d'autres startups en fait, qui, elles, sont plus dans la création. Alors, au sens large, ça peut être la création de contenu ou même d'itinéraire. Parce que nous, on se positionne plutôt comme un distributeur. C'est-à-dire que via l'application, tout utilisateur a accès à des créateurs, qu'ils soient des blogueurs, des musées, voilà, au sens large.
Et en tout cas, ça marche bien. Déjà 2000 téléchargements en peu de temps.
On l'a dépassé là, du coup. Oui.
Donc, ça va se développer encore. On reste ensemble et on continue à parler tourisme aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas embarquer dans vos bagages un assistant de voyage intelligent ? C'est le projet de Very Bad Trip. A tout de suite.
Les innovations dans le domaine du tourisme numérique sont à l'honneur cet après-midi dans la France Bouge. Pour agir ou poser vos questions à nos invités, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 3921, Raphaël.
Ah oui, on a tous des envies différentes quand on voyage et on aimerait tous avoir du sur-mesure sans devoir débourser forcément des milliers d'euros. C'est peut-être possible. Bonjour Jean-Baptiste Bonicel.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur, non pas de Very Bad Trip, je l'ai faite évidemment, mais de Very Road Trip.
C'est pas la première.
Un assistant, je m'en doute, un assistant de voyage intelligent. À l'été 2018, vous vous êtes dit qu'il fallait créer une sorte d'interface qui permet de s'adapter au profil des voyageurs, c'est ça ?
Oui, exactement. Et en fait, ça vient du début de l'aventure un peu avant. En fait, au départ, avec un premier associé, on voulait faire de la location de combi Volkswagen. Et en testant nos concurrents, on s'est rendu compte qu'on avait plus de difficultés à savoir quoi faire, à quel endroit, alors qu'on était sur plutôt nos territoires, donc certainement pareil pour d'autres personnes venant un peu plus loin. Et on a décidé de lancer Very Road Trip à ce moment-là, pour justement, comme un agent de voyage digital qui guide les personnes dans les itinéraires touristiques. Pardon.
Donc qu'est-ce que je fais ? Je renseigne mon lieu de départ, mon lieu d'arrivée, et il y a un algorithme qui va me proposer des itinéraires qui correspondent à mes centres d'intérêt ?
Pour le moment, oui, ça va être comme ça. Alors, il faut encore quelques mois pour avoir une application.
Oui, ça sort à mars-avril 2020,
oui, voilà.
C'est ça ?
On va essayer de tenir ce délai-là. Rentrer un certain nombre de critères, et l'outil va être de plus en plus, est censé devenir de plus en plus intelligent pour capter un certain nombre de choses chez la personne, notamment un comportement. C'est-à-dire qu'au départ, on rend des critères de manière assez classique, comme ça se fait sur plein de sites, que ce soit une appétence à telle sorte d'activité touristique, plutôt culturelle, plutôt sportive, puis aussi sur des choses totalement pratiques. Par exemple, pour une personne à mobilité réduite, on va pouvoir s'adapter aussi et adapter un itinéraire à tout type de profil et parfois des compositions de voyageurs assez complexes.
Donc je peux dire à votre application, je voyage avec une personne
qui
est en fauteuil par exemple, j'ai besoin de m'arrêter toutes les 3 heures.
Ça peut être ça, et surtout savoir quel musée est adapté, quel hébergement est adapté, quelle activité est adaptée, quel transport. Mais on peut aussi être sur des choses un peu plus joyeuses. Hein. Par exemple, je préfère faire de l'acrobranche qu'un musée ou ce genre de choses.
Comment est-ce que vous avez fait pour référencer les lieux, les établissements ?
C'est très complexe. Pour le moment, on utilise des bases de données qui existent, qui ne sont pas parfaites, qu'il faut alimenter. Je pense que c'est une problématique qu'ont beaucoup de personnes dans plein de secteurs d'activité, y compris le tourisme. Et donc du coup, notre outil intègre aussi la capacité de rajouter du contenu, que ce soit pour des professionnels du tourisme, pour des collectivités ou pour les personnes qui voyagent elles-mêmes.
Ce qui est intéressant, c'est que cette appli, vous l'avez conçue pour qu'elle soit gratuite.
Oui, tout à fait. Bah, Very Road Trip, il y a quand même Road Trip, il y a une forme de liberté. Donc on ne vend pas un voyage en fait. Donc ça génère automatiquement, comme le ferait un agent de voyage, sauf qu'il a connaissance d'un petit peu plus de choses et qui est censé connaître un petit peu mieux les gens. Et c'est gratuit. Et du coup...
Vous me voyez venir, ça veut dire que vous allez vous financer comment ? Vous allez faire fonctionner comment votre affaire ?
Ce ne sera pas d'amour et d'eau fraîche, on va en fait intégrer la possibilité de réserver un certain nombre de choses sur notre outil, donc des hébergements, des activités et des moyens de transport, et on a des commissions là-dessus.
Frédéric Mazella, notre coach.
Oui, alors justement, vous dites que c'est complexe pour rassembler toutes ces informations, donc c'est complexe au niveau technologique, donc vous avez beaucoup de technologies pour aller rassembler toutes les informations.
Alors le fait d'assembler, c'est pas vraiment sur le côté technologique, c'est qu'en fait la donnée n'existe pas ou peu dans pas mal d'endroits, et du coup on fait appel.
Quand vous parlez de données, vous pensez à quoi ?
Par exemple des points d'intérêt touristique, tout simplement, ou alors parfois ça peut être... C'est idiot, mais on est dans de la technologie, donc si c'est quelque chose qui a été rentré à la main, une simple erreur de virgule ou d'arrobas ou quoi que ce soit sur un site, on n'a plus la donnée. Et il y a pas mal de prestataires d'activités qui n'ont pas forcément accès, qui ne sont pas forcément visibles encore. Ça paraît étonnant, mais c'est vraiment le cas.
Donc on passe à côté de certaines choses finalement.
On passe à côté de certaines choses, oui, tout à fait. Et donc du coup, on estime qu'on est sur un secteur d'activité un petit peu... Enfin, le road trip, on est parfois un petit peu hors des sentiers battus. Donc c'est justement dans ces endroits-là où il n'y a pas ou peu encore d'infrastructures pour faire remonter cette donnée.
Pour référencer tous ces lieux qui pourraient être potentiellement intéressants pour des touristes.
Hier, par exemple, on était au TOTEC, le salon tourisme et technologie, où il y a des, on parle beaucoup de smart city, de choses comme ça, avec d'énormes acteurs. Et ça nécessite des infrastructures qu'on a peu dans des campagnes, dans des zones un petit peu plus reculées. Et donc, on a la prétention de pouvoir aller justement chercher cette donnée-là. S'il y a des personnes qui la voient, c'est que ça pourra intéresser d'autres personnes.
Elisabeth.
Donc votre solution, elle serait davantage, elle aurait une valeur ajoutée davantage sur des endroits un peu plus isolés, un peu plus éloignés que des grandes agglomérations, que des grandes villes où on a déjà tous les grandes lignes de ce qu'il faut visiter ou de ce qu'il faut connaître.
Oui, tout à fait.
C'est ça votre cible.
On est hors des sentiers battus.
C'est notre cible. Après, j'ai la prétention que ça pourra servir aussi dans des endroits qui sont déjà assez visités. Mm-hmm. Parce que, par exemple, ça va parler de personnes à mobilité réduite, mais on n'est pas obligé, encore une fois, d'en arriver là. Une personne qui vient de Chine, où on n'a pas la même vision des territoires, et ça va être un petit peu long, pour le coup, technologiquement, mais on a la prétention de créer un outil qui va vraiment s'adapter à la personnalité des voyageurs.
Frédéric.
Oui, alors, est-ce que, justement, c'est unique aujourd'hui dans le paysage des applis? Est-ce que vous avez repéré d'autres concurrents à l'international qui font un petit peu la même chose.
Oui, on a de bonnes sources d'inspiration.
Ah, oui.
Mais là où on a une différenciation, c'est que nous, on va pas aller d'un point A à un point B en expliquant aux personnes qu'il existe telle ou telle chose à voir. C'est vraiment un itinéraire qui va passer par les points d'intérêt et évidemment en fonction du profil de la personne, en intégrant par exemple les horaires de visite, le temps qu'il faut pour visiter un musée. Ça va avoir un impact sur l'itinéraire et ce genre de choses n'existe pas encore.
On reste ensemble et on continue à voyager aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h36.
Europe 1.
Avec vous, bien sûr, 3921 et Twitter. Si vous avez des idées à nous soumettre, n'hésitez pas, on vous attend. A tout de suite. Europe 1. Cet après-midi dans La France Bouge, on parle des innovations dans le domaine du tourisme numérique. On en parle, Raphaël, avec vos invités. Bastien Payoux, fondateur de MyTripPlan, solution d'organisation de séjour sur mesure qui transforme les habitants d'une ville en agents de voyage personnel. Lambert Boulet, cofondateur d'Escapade, sans le E à la fin, qui est une application smartphone de guides digitaux de visites culturelles et touristiques. Et Jean-Baptiste Bonicel, président fondateur de Very Road Trip, qui développe un assistant de voyage intelligent. Notre coach aujourd'hui, c'est Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, évidemment. Elisabeth Assayag est à mes côtés. Elisabeth, je crois que vous avez d'ailleurs trouvé d'autres solutions dans le tourisme qui peuvent éventuellement nous servir, y compris pendant les fêtes.
Mais oui, par exemple, le pass patrimoine pour profiter d'un accès illimité au château, au parc, au musée, au monument. Il est vendu 79 €. Il permet donc d'accéder à près de 400 monuments, sites et parcs en France et en Belgique. Il a été lancé à l'occasion des 36e journées du patrimoine. Vous avez aussi Aken, A2KEN. Là aussi, c'est une start-up qui se dit révélateur de territoire. Le site propose des balades sonores, géolocalisées ou encore des podcasts qui vous racontent la destination dans laquelle vous vous trouvez.
Nous avons une question sur Twitter, Céline.
Oui, une question de Marc, #Europe1, qui vous demande, vos solutions sont-elles accessibles aux personnes peu habituées aux nouvelles technologies comme les personnes âgées?
Ah, qui a envie de répondre à Marc, qui est un fidèle auditeur? Lambert?
Alors, je vais commencer, du coup, là, quand on l'a mis dans les mains des utilisateurs, vraiment, on a demandé aussi bien à des jeunes qu'à des moins jeunes, donc, et aussi à des gens qui nous ont dit, mais moi, smartphone, j'en ai pas, j'aime pas ça. Et le retour était plutôt même ceux qui n'en avaient pas. Ils ont dit, rien que pour ça, j'ai envie d'avoir l'application et d'avoir un téléphone.
Parce qu'il y avait un côté immersif.
C'est ça, le côté immersif, surtout le côté facile. On a vraiment voulu designer l'application comme ça, parce que c'est la plus facile, la plus intuitive à utiliser. On n'a pas envie de prendre du temps à apprendre une nouvelle application. Et on veut être dans la joie de visiter, en fait.
Quand on conçoit, justement, on pense à tout ça, on pense à s'adresser à plusieurs publics. Alors peut-être que c'est un petit peu différent quand on est sur des road trips, mais est-ce que vous y avez songé?
Oui, alors à Nancy, on a rencontré un directeur d'EHPAD, par exemple, vraiment pour répondre dans cette question. Et on n'a pas encore commencé, mais ça fait partie de nos chantiers d'aller, par exemple, étudier le degré de dépendance des personnes et pouvoir justement leur fournir une offre qui répond à leurs besoins, parce qu'il n'y a à peu près rien en digital pour eux. Et ça peut pas être idiot, mais ils se rendent compte qu'il y a des résidents qui s'absentent un mois, et puis on ne sait pas où ils sont. Donc oui, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut apporter des solutions.
Bastien Payoux.
Oui, effectivement, après, c'est un peu une obsession pour tous ceux qui créent des sites internet et des applications. C'est de la rendre la plus intuitive possible pour que ça puisse être utilisé par absolument tout le monde. Donc c'est un effort presque quotidien qu'on fait tous.
Notre coach, Frédéric Mazella.
Alors, ça va être une question pour un petit peu tout le monde. Pouvoir être utilisé par tout le monde, on vient d'en parler, c'est très bien. Être utilisé par tout le monde, c'est l'étape suivante. Quelles sont chacun vos techniques pour vous faire connaître, faire en sorte que tout le monde ait envie d'utiliser chacun de vos services?
Europe 1.
Bonne réponse.
Jean-Baptiste. Non, mais c'est vrai que nous, on a pas mal utilisé la presse parce que c'est quelque chose qui marche assez bien. Ça permet de faire connaître assez largement notre solution. Après, l'objectif, c'est quand même de cibler sur notre public particulier. Donc, on essaye, au travers de notre communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur tous les systèmes un peu qui permettent de communiquer. On organise régulièrement des événements où on essaye d'inviter des personnes qui sont susceptibles d'utiliser l'application.
Et si vous voulez réutiliser Europe 1, il faut prononcer votre marque un tout petit peu, parce que sinon, après, on ne sait plus où aller.
Lambert Boulet.
Donc oui, nous, au-delà des réseaux sociaux et de la presse, pour Escapade, quand on travaille vraiment avec des professionnels, on va s'appuyer sur les communautés de ces professionnels. Donc ça va être les blogueurs et les influenceurs qui, eux, ont leur propre communauté. Les musées qui ont des visiteurs un peu captifs, parce que quand ils arrivent, on va leur proposer de télécharger l'application. Donc automatiquement, on va avoir effectivement des gens qui vont télécharger et s'inscrire.
Oui, il va y avoir un réflexe finalement.
C'est ce qu'on cherche à créer, ce qu'on aimerait bien.
Oui, un réflexe pour... Alors, vous avez retenu les noms, je suppose, Frédéric Mazella.
Alors, on a Very Road Trip, on a My Trip Plan et on a Escapade.
Voilà, My Trip Plan en un seul mot, je le précise, avec deux P. Hein,
non,
trip.
Un seul P.
Alors, un seul P, mais qui sert pour les deux.
Exactement.
C'est pour ça que c'est difficile à trouver, peut-être parfois sur le site. Escapade sans le E, pour le coup, et Very Road Trip, évidemment, on aura tous retenu. Merci à tous les trois d'être venus nous aider à voyager aujourd'hui sur Europe 1. Et il est 13h45.
Europe 1.
On reste ensemble et dans un instant, on va écrire nos cartes de vœux. C'est avec l'entreprise qui va bien, c'est Drégère. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Drégère, la carterie. Bonjour Olivier Drégère.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cinquième génération à diriger cette entreprise qui a été fondée en 1886, hein,
ouais,
c'est bien
tout
ça
à fait, ouais.
Au départ, c'est Drégère et Le Sieur, c'est ça?
Au tout début, c'est Drégère et Le Sieur,
et
effectivement.
Et c'est une imprimerie.
Et c'est une imprimerie. C'est une imprimerie et ça restera l'activité principale de la famille jusque dans les années 70. Et dans l'histoire de l'imprimerie, dans les années 50, on se rapproche d'un éditeur de cartes postales qui a créé les éditions Yvon au début du siècle pour faire découvrir la France par la carte postale et qui, au moment de prendre sa retraite, vend sa société à son principal partenaire qui est l'imprimerie Drégère.
Alors, c'est vrai que ça, c'est l'histoire moderne, mais je voulais qu'on s'arrête un instant sur une étape qui me paraît importante. Il y a eu des collaborations exceptionnelles quand même, hein, à l'époque encore de l'imprimerie.
Tout à fait.
Avec Cocteau, avec Matisse, avec Picasso, avec Dali.
Tout à fait. Et dans les anecdotes, l'imprimerie avait un représentant aux États-Unis, une représentante aux États-Unis qui vendait les savoir-faire français aux États-Unis et qui dit: il y a un artiste pour lequel on fait une rétrospective incroyable de son vivant, on n'a jamais vu quelque chose comme ça, vous devriez envoyer un photographe. Et donc la famille envoie un photographe et l'artiste s'appelle Salvador Dali. Revenu en France avec les photos, on va voir les grandes maisons d'édition. Et on propose de faire un livre sur Dali, et toutes les grandes maisons d'édition disent: non, Dali, c'est trop fantasque, c'est pas notre positionnement, c'est pas notre image. Et on va lancer le Dali de Drégère, qui est un des plus grands succès en termes de livres d'art, qui sera vendu à plus de 300 000 exemplaires.
Alors Drégère comprend très vite que l'innovation ne se limite pas au progrès technique, et vous l'avez dit, hein, il va aller racheter les éditions Yvon. C'est comme ça que vous pénétrez finalement dans l'univers de la papeterie.
Tout à fait, ouais, dans la carte postale d'abord. Et puis de la carte postale vers la carte de vœux, vers les produits qui vont évoluer pour accompagner les usages. Sachant que tout au long du temps, le fil connecteur pour nous, c'est notre mission, qui est d'aider à transmettre une attention, une émotion. Et donc on a fait ça en commençant par la carte postale, par des supports publicitaires pour Drégère. Et puis aujourd'hui, on va jusqu'à de l'article cadeau, un petit clin d'œil sur un porte-clés, un stylo qui permettent de rappeler l'attention qu'on vous porte ou que la personne qui vous a acheté le cadeau vous porte.
Alors, on fait un bond dans le temps. On arrive en 2006. On change de génération. Vous entrez dans la maison. Vous élargissez hein, d'ailleurs aux articles cadeaux. Et en même temps, vous rachetez aussi la carterie en 2011 qui appartient à Hallmark, à l'américain Hallmark.
Qui est une ancienne filiale effectivement d'Hallmark, donc du leader mondial sur la carte de vœux. Qui fait 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est 30 000 collaborateurs, 100 000 points de vente. Enfin, c'est vraiment une très, très grosse machine. Et on a la chance de représenter ce savoir-faire qui, concrètement, c'est 800 dessinateurs. C'est un des plus grands studios de création dans le monde. 2 millions de dessins qui nous servent à illustrer, aider à transmettre cette attention, ce message avec le meilleur support. Parce que sur la carte de vœux et sur nos produits en général, une fois qu'on a transmis ou donné une carte à quelqu'un, on ne va plus jamais réutiliser le même produit pour une autre personne. Évidemment, il faut un autre produit. Donc, on a une dynamique de renouvellement très, très forte.
Et on les voit, vos cartes qui sont avec nous sur europe1.fr. Dreger Carterie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle désormais.
Oui.
Ça, c'est un choix, hein, fin 2017, un nouveau positionnement. C'est aussi des grandes collaborations. Vous avez parlé de Dali, de Picasso, de Doineau aussi.
Oui, tout à fait. C'est des artistes comme Doineau, c'est des artistes contemporains comme Lovisa Burfitt ou Canetti aussi. Et puis des grandes maisons comme Disney avec lesquelles on travaille et pour lesquelles on fait des produits sur les différentes franchises.
Que dit notre coach Frédéric Mazzella ?
Alors, j'aimerais savoir si vous avez aussi une envie d'aller plus vers du design ou de l'accompagnement de design intérieur avec tous les visuels dont vous disposez. Est-ce que vous avez moyen de faire de la décoration?
Alors, tout à fait. Dans les différentes entreprises qui constituent le groupe, il y a une société qui s'appelle Nouvelles Images, qui a créé ce qu'on appelle le home sticker. Le home sticker, c'est la directrice artistique de Nouvelles Images qui est malade, hospitalisée, qui se retrouve dans une chambre d'hôpital, et ce décor est moche, fade, elle se sent pas bien, et elle se dit comment est-ce qu'on pourrait décorer cet espace et en même temps le laisser impeccable pour la prochaine personne qui va venir dans la chambre d'hôpital. Et donc, Nouvelles Images a créé le home sticker, et c'est un des segments importants sur lesquels on travaille aujourd'hui, donc qui permet d'apposer sur les murs ces motifs et de les enlever, de redécorer une salle de bain, une cuisine avec beaucoup de facilité.
Vous avez 300 collaborateurs aujourd'hui.
300 collaborateurs, oui.
Combien de pays
On est présent sur 9 pays, avec 2 pays principaux qui sont France et Espagne.
France et Espagne, et vous avez aussi une démarche équitable, c'est important de le signaler, on est dans le papier.
Oui.
Vous dites 80% de nos papiers ont le label FSC.
Oui, 80% de nos papiers donc, sont certifiés sur l'origine, les conditions de production du papier. Il faut savoir que le papier, c'est une matière qui va être recyclée 5 ou 6 fois. On ne le lit pas toujours, donc c'est très durable en termes de matière. On est très engagé sur la réduction des plastiques. Depuis 6 ans, on a supprimé les cellophane sur la quasi-totalité de nos produits. Seuls les produits à très forte valeur ajoutée, comme ceux qui sont sur le plateau, là, ont besoin d'être protégés pour ne pas s'abîmer dans les points de vente. Et avec ces actions, c'est l'équivalent d'1 700 000 bouteilles en plastique qui n'ont pas été mises dans l'environnement.
Et vous faites pareil cette année pour les agendas et pour les cadeaux?
Tout à fait. On continue cette démarche. Vraiment qu'on voit comme une démarche de progrès. On ne prétend pas être arrivé au port, mais chaque année, on amène des nouvelles choses et on repose nos fondamentaux pour aller encore plus loin.
Alors, aller encore plus loin, justement, c'est quoi? Quelle est la suite pour Dreger Carterie?
La suite, c'est de continuer la suppression des plastiques, d'assurer une présence encore plus forte de produits imprimés avec des encres végétales qui permettent le recyclage du papier et qui ont peu d'impact environnemental au moment de la production des produits. Et puis d'aider, surtout, enfin, c'est notre mission, le point essentiel, aider à transmettre la bonne attention, la bonne émotion.
Elisabeth,
on est à l'ère du numérique,
oui.
Mais là, quelques jours des fêtes de fin d'année, est-ce qu'on continue à acheter des cartes de vœux?
Oui, on continue à acheter des cartes de vœux. Très clairement, l'impact gilet jaune l'année dernière a été assez important sur nos activités, parce que le mois de décembre, c'est un très gros mois. Et les grèves cette année affectent la fréquentation dans les points de vente et la dynamique commerciale.
On peut les en commander.
9000 points de vente, c'est ça?
9000 points de vente qui
on peut les commander en ligne?
On peut commander en ligne, mais ce n'est pas forcément aussi intuitif que quand on est dans le point de vente. On est vraiment sur un achat d'impulsion.
Frédéric. Et alors, est-ce que vous faites des cartes digitales?
Non, on ne fait pas de cartes digitales. Notre positionnement, c'est vraiment de se déconnecter de cette urgence du digital, de cette réactivité que nous imposent les médias sociaux, et de proposer une autre qualité de relation, un autre message, un autre niveau d'attention, que ce soit avec le petit mug qui va rappeler super frère, et à chaque fois qu'on va boire un peu de café, on va dire tiens, ça c'est ma sœur qui m'a offert ça, c'est sympa, ou la petite carte de vœux qu'on va garder parce qu'elle est magnifique et qu'on veut décorer sa maison.
C'est vrai qu'elles sont belles, c'est la magie de Noël.
Tout à fait.
Si on vous souhaite quelque chose, qu'est-ce qu'on vous écrit à l'intérieur ?
que les grèves s'arrêtent le plus vite. Oui. Ah, pardon, vous dire sur la carte de vœux. Qu'est-ce qu'on souhaite?
Bah oui, moi, c'était votre vœu, j'avais le droit.
Pour nous, là, aujourd'hui, le souhait pour toute l'entreprise, c'est que les grèves s'arrêtent le plus vite pour qu'on puisse reprendre un commerce normal et aider nos clients, nos consommateurs à pouvoir transmettre les attentions avec nos supports. Et sur une carte de vœux, c'est le moment de partager ou de revenir sur ce qui s'est passé dans l'année et de souhaiter une bonne année.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est Dresger Carterie, c'est l'entreprise qui va bien. Merci à Frédéric Mazella qui était notre coach aujourd'hui, fondateur de Blablacar, Elisabeth et Céline.
À demain, Raphaël. Midi.